Europe Midi, Patrick Cohen.
Bonjour et bienvenue, il est midi et demi. Le couvre-feu étendu à 46 millions de Français, y compris loin des villes. Mais nous verrons que le Covid est maintenant entré dans les campagnes. C'est le couvre-feu de la dernière chance, a laissé entendre Jean Castex. Si l'épidémie ne ralentit pas et que les hôpitaux sont saturés, il y aura des mesures plus dures, sans doute des reconfinements locaux, par territoire. Le Pays de Galles, lui, est reconfiné tout entier pendant 2 semaines. Reportage à suivre à Cardiff. Une grande page américaine dans le journal, avec un retour sur le deuxième et dernier débat Trump-Biden et l'écoute du nouvel album de Bruce Springsteen, plus intime et personnel. Invité d'Europe Midi, le romancier Olivier Norek qui imagine la prise d'otage du patron de Total, non pas pour de l'argent, mais pour le sauvetage de la planète. Son livre s'appelle « Impact » chez Michel Lafon.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
La permission de minuit ce soir dans 38 nouveaux départements. Et demain, à 21h, le couvre-feu va s'imposer désormais aux 2/3 des Français, 46 millions d'habitants, y compris dans des territoires ruraux, jusque-là épargnés. Mais, et c'est nouveau, Anne Le Gall, le Covid a débarqué dans les campagnes.
Oui, en ce moment, le virus circule davantage dans les départements ruraux de la Loire, l'Ardèche, l'Ariège, l'Aveyron ou la Savoie que dans les Yvelines, par exemple. Et si le virus a pu gagner ses campagnes moins denses en population, c'est sans doute par les allers-retours des salariés et des étudiants qui travaillent dans les grandes villes les plus proches et qui le ramènent chez eux. Saint-Étienne, par exemple, qui affiche l'incidence la plus élevée de France avec 807 cas pour 100 000 habitants, est une grande ville universitaire dans la limite sud du département. Et c'est dans toute la Loire, mais aussi dans la Haute Loire et l'Ardèche voisine qu'on enregistre une flambée des cas. Le problème, c'est que les gestes barrières s'arrêtent souvent à la porte de la maison, surtout dans ces régions qui ont été moins concernées par le stress de la première vague. À l'autre bout du classement, la Corrèze, le Lot, la Charente-Maritime, le Finistère font pour l'instant partie des départements les moins touchés par le virus. Mais pour la suite, là comme ailleurs, tout dépendra du respect des consignes sanitaires par les habitants sur place et du comportement des 3 millions de Français qui se déplacent à l'occasion des vacances de la Toussaint.
Anne Le Gall, le couvre-feu sera-t-il suffisant pour freiner la circulation du virus? Première réponse dans le courant de la semaine prochaine, mais sinon, Jean Castex a évoqué hier la mise à l'étude de mesures beaucoup plus dures. Aurélie Herbemont, en clair, ce qui est sur la table, ce sont des reconfinements locaux, des territoires qui pourraient à nouveau être mis à l'arrêt.
Et oui, si le Premier ministre s'est bien gardé de préciser hier quelles pourraient être ces mesures beaucoup plus dures, l'éventail va du couvre-feu avec des horaires plus drastiques au confinement. Alors, la mise sous cloche du pays, c'est le scénario catastrophe que l'exécutif veut à tout prix éviter. Mais des reconfinements locaux, l'idée n'est plus taboue. On y arrivera peut-être, confie un ministre, mais c'est très dur, moralement et économiquement. Une de ses collègues redoute en tout cas que le couvre-feu ne soit pas suffisant pour faire baisser la pression dans certaines métropoles. C'est la semaine prochaine, vous le disiez, que l'exécutif fera un premier bilan du couvre-feu en espérant que les chiffres s'améliorent, car aujourd'hui, évidemment, il est beaucoup trop tôt pour voir les effets du dispositif. La suite dépendra de la vitesse de circulation du virus, de l'efficacité des mesures et de la résistance du système hospitalier, selon un proche d'Emmanuel Macron. Bref, ce sont les indicateurs qui auront le dernier mot.
Aurélie Herbemont, dans les hôpitaux, l'inquiétude gagne de jour en jour. Plus de 2300 malades en réanimation désormais. Le directeur général de l'APHP, Martin Hirsch, indique ce matin qu'il est possible que la deuxième vague soit pire que la première. Et à Lille, le chef du service de réanimation au CHU, le professeur Julien Poissy, en appelle à une prise de conscience des plus jeunes.
Moi, à titre personnel aussi, je comprends tout à fait le fait qu'il faut au maximum maintenir les activités socio-économiques, et c'est incontestable. Mais tout ça a aussi comme corollaire de pouvoir accepter un certain nombre de restrictions. Alors, je suis désolé, mais si on prend l'exemple des étudiants, est-ce que c'est la fin du monde d'arrêter pendant quelques mois d'aller boire des coups le jeudi soir rue Solferino? Enfin, très franchement, je crois pas, quoi. Ça nécessite une maturité collective. Puis le fait de voir effectivement la courbe exponentielle qui ne cesse de monter et les comportements qui sont peut-être pas tout à fait adapté, oui, c'est un côté démoralisant.
Propos recueillis par Lionel Gougedot, la rue Solferino, c'est une rue qui est peuplée de bars à Lille. Et la France n'est pas un cas à part, c'est toute l'Europe qui se barricade à nouveau face à des niveaux de contamination records. En Belgique, les autorités parlent déjà d'une situation bien pire qu'au printemps. Partout, des couvre-feux, des fermetures de bars et de restaurants, des restrictions de déplacement. Et au Pays de Galles, comme en Irlande depuis hier, un reconfinement général va entrer en vigueur ce soir et pour 2 semaines. Envoyé spécial d'Europe 1 à Cardiff, Anaïs Cordoba.
Karen, retraitée, est arrivée très tôt ce matin dans le centre-ville de Cardiff. Avant le confinement, elle va faire ses courses, acheter ses médicaments et passer chez le coiffeur.
Quand le confinement va commencer, je ne pourrai plus sortir. Je devrai dépendre d'autres personnes et ça, c'est vraiment dur.
Dans son salon de coiffure, Amanda, qui attend beaucoup de clients aujourd'hui, n'a pas le sourire.
Je suis très en colère, car en tant que coiffeur, on a fait beaucoup d'efforts pour appliquer les règles sanitaires dans notre salon. On a acheté des masques avec visière, on désinfecte tout et on applique la distanciation sociale. C'est vraiment injuste, d'autant plus qu'il n'y a pas de preuve que le virus se répand dans les salons de coiffure.
Même amertume chez Agit, patron d'un restaurant grec du quartier chic de Cardiff.
Les gens ne réservent rien, car personne ne sait ce qui va se passer. L'année dernière, à cette même période, notre carnet de réservation était plein de la mi-novembre jusqu'à fin décembre. Aujourd'hui, il est vide.
Le confinement doit se terminer le 9 novembre. Le Premier ministre gallois, Mark Drakeford, a promis qu'il ne serait pas étendu. Cardiff, Anaïs Cordoba, Europe 1.
Encore un mot sur la France. La nouvelle appli Tous Anti-Covid remarche ce matin après avoir été bloquée car saturée de demandes. Hier, 600 000 chargements en 24 heures pour plus de 3 300 000 en tout, net progrès par rapport à la première version. Pour la lutte contre l'islamisme après l'assassinat de Samuel Paty, Bruno Le Maire annonce sur Europe 1 ce matin un meilleur contrôle des flux financiers, déclaration obligatoire pour tout argent venu de l'étranger.
Aujourd'hui, les financements étrangers sont contrôlés par les services de renseignement, mais ils ne sont pas obligatoirement déclarés. Je propose que désormais, toute somme venue de l'étranger, à partir d'un certain montant, lorsqu'elle va vers une association cultuelle, soit déclarée obligatoirement en préfecture pour qu'elle puisse être contrôlée. Nous savons que ces réseaux utilisent très souvent les cartes prépayées que vous allez chercher dans un bar tabac et vous n'êtes pas obligé de donner votre nom. Je ne parle pas des cartes des
enseignes
comme les cartes
sera obligatoire. Snack ou donner son identité.
Là, l'identification sera obligatoire parce qu'au bout du compte, on transforme ces cartes en crypto-monnaie, ils sont envoyés à l'étranger et ces sommes sont converties ensuite en espèces qui peuvent aller jusqu'à 150 000 euros selon les services de renseignement qui financent des activités terroristes.
Le ministre de l'économie Bruno Le Maire au micro européen de Sonia Mabrouk.
Europe Midi, Patrick Cohen.
Une pause avant la suite et la grande page américaine de ce journal, le débat Trump-Biden et le nouveau Springsteen.
Europe Midi, Patrick Cohen.
Moins d'éclat, plus de débat. Et plus de fond, le deuxième face-à-face Trump-Biden a été celui-ci presque normal, avec d'entrée une première passe d'armes sur la gestion du Covid.
Celui qui est responsable de tant de morts ne peut rester président des États-Unis.
Ce n'est pas ma faute si le virus est venu, c'est la faute de la Chine.
C'est la faute de la Chine, Trump face à Biden. Du coup, qui est le gagnant, Xavier Yvon ?
Alors, il y a au moins un gagnant, c'est le public américain, qui a pu entendre distinctement cette fois les arguments des deux candidats sur les sujets de fond, pandémie, économie, immigration, environnement, des visions radicalement différentes, titre d'une même voix le New York Times et le Washington Post. Donald Trump a essayé de dépeindre Joe Biden comme un politicien corrompu qui n'a rien fait pendant son demi-siècle de carrière. Joe Biden, lui, a attaqué Donald Trump, le populiste, sur sa gestion désastreuse du virus et son comportement inhumain avec les enfants de migrants séparés de leurs parents à la frontière. Sur la forme, Donald Trump a été plus discipliné que la dernière fois et aussi, il faut le dire, muselé par un micro coupé à certains moments. Son attitude a pu rassurer certains électeurs républicains hésitants, mais pas sûr que ce débat crée la dynamique dont le président a besoin pour inverser la tendance. Tendance favorable pour l'instant à Joe Biden dans les sondages.
Xavier Yvon, le correspondant d'Europe 1 à New York. La seule nouveauté de ce débat est prise de risque de la part de Biden. Il promet, s'il est élu, une sortie progressive du pétrole. Oui, je me détournerai progressivement de l'industrie pétrolière, a-t-il dit, ce qui pourrait lui coûter des voix, d'ailleurs, au Texas ou en Oklahoma, comme l'a fait remarquer Donald Trump. Déclaration qui vient d'interpeller notre invité Olivier Norek. Cette question du tout pétrole est au cœur de son livre. On en parle dans 2 minutes. L'autre actualité américaine du jour, c'est comme prévu le grand retour du boss, la sortie du nouvel album de Bruce Springsteen. 12 chansons en ligne depuis cette nuit. Angèle Châtelier, dans un registre plus intime.
Une nouvelle chanson au texte sombre sur le temps qui a passé, la mort qui est au cœur de ce 20e album de Bruce Springsteen. Il a perdu des amis chers, comme le musicien George Tice, avec qui il a fait ses premières scènes. À 71 ans, le boss se rend bien compte que sa jeunesse s'est envolée. « pensais savoir qui j'étais, mais j'avais tort, chante-t-il aussi. Et que Bruce Springsteen révèle son intimité, c'est un cadeau, admet Belkacem Balouli, auteur d'un livre sur le chanteur.
Contrairement à ses autres albums où il parle des gens qui l'entourent, pour la première fois, c'est lui qui est vraiment au centre. Quand on écoute certaines chansons, on se dit « Tiens, c'est exactement ce que je pensais du bonhomme ». On sent le type qui est bienveillant, qui est proche de ses fans et ça le rend encore plus sympathique.
Ce nouvel album enregistré en 5 jours avec ses célèbres musiciens, le E Street Band, est donc comme une biographie de Bruce Springsteen, l'homme avec ses blessures et ses cicatrices. Sa voix aussi est plus posée, mais les guitares puissantes et les chansons peuplées d'orgue rappellent son troisième album, Born to Run, considéré aujourd'hui comme l'un de ses meilleurs.
Bruce Springsteen, raconté par Angèle Châtelier pour Europe 1. Le temps, Anissa Dadi, toute petite amélioration.
Oui, on commence par le positif, hein, Patrick, aujourd'hui, avec sur le nord, la région parisienne et les Pays de la Loire, une légère amélioration, puisque c'est sur ces régions-là que le soleil sera présent cet après-midi et le temps reste sec. Des Hauts-de-France à la Bretagne, donc sur le quart nord-ouest, en passant par la Normandie évidemment, le ciel va se dégager timidement cet après-midi avec quelques éclaircies. Et alors sur tout le reste du pays, c'est très agité. Au bord de la Méditerranée, les pluies de ce matin sont en train de se calmer, les éclaircies vont essayer de percer ce ciel assez gris. Du Pays Basque au Grand Est, donc sur une large diagonale, le temps est instable cet après-midi avec pas mal d'averses, parfois orageuses, notamment du côté de la vallée du Rhône. Et les températures, elles sont douces, bien au-dessus des normales de saison. Nous avons actuellement des températures dignes d'une fin avril, avec 16 degrés à Aurillac, 16 degrés à Brest, 17 à Lille et Limoges, 19 à Paris et Toulouse, 21 à Nice et Montpellier, 22 à Marseille, et la maximale toujours pour Ajaccio avec 25 degrés.
Merci beaucoup Anissa.